Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Élection des gouverneurs, pas encore de campagne électorale dans le Haut-Lomami. Les députés provinciaux exigent le paiement de leurs arriérés de près d'une année avant toute plénière. Journée mondiale de la liberté de la presse, quand bien même ils sont heurtés aux problèmes d'accès aux sources d'information, les journalistes du Grand Nord, du Nord Kivu sont très appréciés dans leur travail de sensibilisation. Enfin, notre invité dans cette édition est Lenny Ilondo, l'un des administrateurs de la FEC. Il nous expliquera le pourquoi du malentendu persistant autour du nouveau système de traçabilité des droits d'accise. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant le développement de tous ces titres, cette information, le journaliste Perrot Louara est recherché par la police judiciaire des parquets afin de répondre des faits qui seraient mis à sa charge, notamment l'imputation dommageable. En effet, dans une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, on voit le journaliste proférer des propos dénigrants à l'endroit du chef de l'État. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe confirme le mandat d'Amené qu'il a émis à son encontre. Il demande à la police de rechercher et d'arrêter les journalistes pour être entendu sur des indices sérieux de culpabilité qui pèseraient sur lui. Dossier à suivre. La province du Haut-Lomami est parmi celles qui doivent élire le 6 mai prochain son gouverneur. Cependant, la campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, dont le coup d'envoi a été donné lundi dernier, n'a toujours pas commencé à l'Assemblée provinciale de cette province issue de l'ancien Katanga. Les députés provinciaux conditionnent la tenue des séances plénières par le paiement de leurs arriérés qui s'étalent sur près d'une année. D'autres détails avec le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, Thierry Caleb Mwamba-Lumbala, joint par Jean Ngandou.
La campagne électorale pour l'élection du gouverneur, prévue pour lundi dans les provinces concernées par cette élection-là, dont le Haut-Lomami fait partie, n'a pas eu lieu jusqu'aujourd'hui, mardi. Nous avons convoqué une séance plénière aujourd'hui pour auditionner le projet des sociétés des candidats gouverneurs. Et par motion incidentielle, les collègues ont boycotté cette plénière parce que le pouvoir central n'a pas honoré ses engagements. En ce qui concerne nos arriérés de paiement, nous totalisons à ce jour plus de 10 mois. Ce qui a plus énervé les honorables députés sur le non-paiement du mois de mars, qui est déjà payé sur plus de 20 provinces, mais sauf le Haut-Lomami. Les honorables députés ont demandé au bureau que nous représentons à ce que le bureau entre en contact avec le pouvoir central pour essayer de décanter cette situation. Comme ça, demain, la séance pourra être reprise. En ce qui concerne la date du 6, nous attendons que le gouvernement central puisse prendre toutes les dispositions pour que nos droits soient rétablis.
Pendant ce temps, concernant toujours cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, dans la province du Tanganyika, les femmes élèvent leur voix. C'est le cas des femmes de l'association Rien sans les femmes. Cette structure soutient la candidature de 2 femmes parmi les 8 au poste de gouverneur. Je vous propose d'écouter à ce sujet la chargée de communication de Rien sans les femmes, Nelly Ngungwa, au micro de François-Xavier Mibé.
Nous voulons à ce qu'il y ait la représentativité de la femme dans les instances de prise des décisions. Et comme vous le savez, la parité ne vise pas seulement que la femme puisse être considérée dans la société, mais pour qu'elle puisse avoir les mêmes opportunités et le même droit que les hommes. Et dans notre province, nous avons connu beaucoup de problèmes du côté insécurité, du côté de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous avons réfléchi ensemble avec la coordination pour que nous venions apporter notre soutien à ces femmes qui se sont levées et qui ont voulu apporter leur initiative pour le développement de notre province, le Tanganyika. Nous voulons que la femme soit vraiment représentée cette fois-ci pour que nous puissions avoir un changement durable dans notre province.
Et puis, troisième production de notre série sur les enjeux autour de la loi électorale. Après la problématique du seuil et du mode de scrutin, nous abordons dans ce numéro la question des élections indirectes concernant justement les gouverneurs des provinces et des sénateurs. Si certains députés ont plaidé pour que le gouverneur soit voté directement par le peuple, comme c'est le cas avec le président de la République, la majorité a soutenu le maintien d'un vote indirect. Cependant, pour prévenir des cas de corruption à grande échelle, le G13 propose un système de parrainage des gouverneurs par les candidats députés provinciaux. Michel Kifindangoy.
L'élection des gouverneurs et des sénateurs constitue l'épisode le plus tragique de la corruption des élus en RDC, soulignent les députés nationaux. Les dernières élections, dont les résultats ont même été suspendus par les chefs de l'État, en témoignent davantage. Pour faire face à la corruption qui gangrène ces élections indirectes, certains députés ont plaidé pour que les gouverneurs et les sénateurs soient élus par le peuple au suffrage universel direct. Mais le G13 juge très compliqué cette proposition. André-Claude Loubaya.
Des gouverneurs qui ont été élus recrutent des députés à coup de billets de banque et se font élire. Que le gouverneur ne soit issu que des forces politiques représentées dans les assemblées provinciales. Il y en a qui estiment que pour parer à tout cela, il faut carrément faire élire directement le gouverneur par la population. Cela va poser beaucoup de problèmes et ça devrait entraîner le changement de constitution.
Le G13 propose donc un système de parrainage.
Il faut que les candidats gouverneurs soient parrainés par le candidat député provincial pendant la campagne pour que chaque candidat député provincial se présente déjà avec son candidat gouverneur.
Pour André-Claude Loubaya, la proposition du G13 interdit aussi d'avoir dans une province plus d'un sénateur issu d'un même territoire ou d'une même ville.
Entre-temps, clôture hier mardi du premier congrès du parti politique Leadership et Gouvernance démocratique. Son président désigné, le sénateur Augustin Matata-Mponyo, annonce sa candidature à la présidentielle de 2023. Dans son discours, l'ancien Premier ministre motive sa décision par la situation d'instabilité et de précarité dans laquelle évolue la RDC et s'est dit déterminé à instaurer un leadership et une gouvernance de qualité. Il affirme avoir un rêve, celui de Lumumba, de Mobutu, de Kabila, de Étienne Tshisekedi et de Nelson Mandela, consistant à construire un Congo puissant au cœur de l'Afrique avec une armée et une économie forte dans un état de droit où la justice n'est pas instrumentalisée. Augustin Matata-Mponyo est au micro de Michel Kifindangoy.
La situation socio-économique du pays est catastrophique et requiert un traitement de choc capable de changer totalement le paradigme de gestion tant politique, économique et sociale. Un pays qui était presque au même pied d'égalité que la Corée du Sud, mais qui est classé aujourd'hui comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays qui importe les poissons chinchards alors que les poissons meurent de vieillesse dans le fleuve et les lacs poissonnés. Des tueries de masse de la population civile sont commises depuis plusieurs dizaines d'années. Des pillages systématiques des ressources naturelles sont planifiés et exécutés. Cette situation procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Au regard de ces gigantesques défis, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle.
Les journalistes qui travaillent dans les provinces sous état de siège se heurtent quelquefois aux problèmes d'accès à certaines sources d'informations pendant cette période exceptionnelle. Ce constat est fait par le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, sous section de Butembo, à l'occasion de la célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. D'après lui, cette situation est une autre forme d'atteinte à la liberté de la presse, contrairement à la période d'avant état de siège. Rachidi Amouri Kasongo est au micro de Grévis Salomon.
Au nom de la loi de la proximité, les journalistes cherchent des informations par rapport à la proximité géographique, la proximité temporelle, mais aussi à la proximité psycho-affective. Aujourd'hui, les autorités de base n'acceptent plus de nous accorder des interviews. Ce qui fait que nous avons des difficultés d'avoir ces informations. Parce qu'il y a des problèmes, des cas d'insécurité par exemple, où nous ne pouvons pas nous contenter du bourgmestre, parce que parfois, c'est nous qui informons le bourgmestre qu'il y a un cas d'insécurité telle part. Et le bourgmestre va prendre le temps de vérifier. Pendant que lui prendra le temps de vérifier, nous rencontrons les chefs de la cellule, les chefs d'avenue, les chefs de quartier qui lui a vécu les cas, qui lui est arrivé le premier sur terrain. Il a des informations de première main à nous livrer, mais lorsque nous l'abordons pour une interview, il y a refuse de répondre, même hors micro, sous prétexte qu'il y a une instruction interdisant à ces chefs de base de répondre aux questions des journalistes. Je crois que ça, c'est une autre forme d'atteinte à la liberté de la presse. Parce qu'avant la période de l'état de siège, on pouvait rencontrer les chefs de quartier pour des questions en rapport avec le développement ou en rapport avec la sécurité, et les chefs répondez sans problème à nos questions.
Alors, pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la sous-section de l'UNPC Butembo a lancé depuis samedi dernier plusieurs activités, les travaux communautaires sur l'artère principale de la ville, une conférence débat et un match de football ont été organisés par les journalistes. Par ailleurs, le travail des journalistes est remarquable pendant cette période de l'état de siège dans la ville de Beni. La déclaration est du maire intérimaire de Beni à l'occasion de la célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de presse. Selon lui, les médias locaux ont joué leur rôle dans la sensibilisation de la communauté quant à ce qui est du respect de la loi instaurant l'état de siège. Par la même occasion, il exhorte les journalistes d'exercer leur métier dans le respect des lois du pays. On écoute le commissaire supérieur, Rémi Masashi, au micro de Guylaine Kassassia.
Vous êtes sans ignorer que la presse, non seulement quatrième pouvoir, c'est aussi le partenaire privilégié et incontournable de l'exécutif. Parce que sans la presse, toutes les actions que nous posons seront muettes et sans effet. Dans l'état de siège, moi j'apprécie beaucoup les journalistes qui ne cessent d'être à nos côtés à tout moment. Je l'exhorte à nous accompagner pour restaurer l'autorité de l'État et ramener la paix dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu en général. Je dois féliciter les différentes maison de presse de la ville de Beni qui nous ont accompagnés dans la sensibilisation. Chaque fois qu'il y a des manifestations qui sont annoncées, la presse ne cesse de mettre sur la place publique tout ce qu'il y a comme sensibilisation et conscientisation de monsieur le maire par rapport à ces actions-là. Parce que vous devez retenir que l'état de siège, c'est une période exceptionnelle et qu'il y a des principes qui ne peuvent pas être violés. Ils sont en train d'exercer leur métier librement, mais il faut savoir quand même que la liberté a quand même des limites. Donc il faut de travailler en respectant les lois du pays.
Cette semaine, Radio Okapi s'intéresse dans une série de reportages aux difficultés d'accès dans l'espace du Grand Kasaï et plus particulièrement dans la province du Kasaï oriental dont le chef-lieu est Mbujimayi. Avec plus de 3 millions d'habitants, la province est au stade actuel privée de plusieurs infrastructures, dont notamment les routes, les aéroports, les voies ferroviaires et fluviales pouvant permettre son désenclavement. Arriver et quitter la ville de Mbujimayi pour une autre province, c'est un véritable calvaire, Esterne Dalafina.
Quatre voies de transport peuvent être utilisées pour atteindre la province du Kasaï oriental. Il y a la voie aérienne à partir de l'aéroport de Bipemba en Mbujimayi, la voie ferroviaire à partir de Mweneditu, la voie fluviale à partir du Bief d'Ndomba dans le territoire de Kabeakamwanga, ainsi que la voie routière à travers la RN1 qui relie les villes de Boma, Matadi, Kinshasa, Kengechika, Pakananga, Mbujimayi, Likasi et Lubumbashi. Cette voie est en état de délabrement avancé et perturbe ainsi la circulation normale des personnes et de leurs biens. Difficile également d'atteindre le Kasaï oriental par la voie ferroviaire avec le train de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, à partir de Mweneditu, suite aux difficultés liées au manque de locomotives et à l'absence de trains passagers. Côté voie aérienne, au-delà du mauvais état de la piste de l'aéroport de Bipemba, seules deux compagnies d'aviation opèrent d'une manière irrégulière sur les itinéraires Kinshasa-Mbujimayi et Lubumbashi et vice-versa. La voie fluviale à partir du Bief de Ndomba présente plusieurs obstacles sur le parcours. Un armateur qui a tenté d'ouvrir la voie a momentanément suspendu le trafic. Si les personnes sont confrontées à toutes ces difficultés pour venir et quitter le Kasaï oriental, que pourrons-nous dire de la marchandise étant donné que cette province dépend en tout et pour tout des autres provinces? Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, affaire victime du RAM contre les sociétés de télécommunications Orange, Airtel et Vodacom. À l'issue de l'audience de ce mardi, le défaut a été retenu contre Orange, dont les avocats ne se sont pas présentés, selon maître Hervé Diakessé, avocat des victimes. Il ajoute qu'ils ont sollicité l'intégralité de leurs demandes et en réponse, le parquet a requis que le tribunal y fasse droit tout en réduisant les dommages d'intérêt à des justes proportions. On écoute maître Hervé Diakessé expliquer les autres aspects dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
À l'audience de ces jours, les trois affaires ont été appelées. La première affaire concernait les victimes des rames contre Orange RDC. Orange ne s'est pas présenté et conformément à la loi, comme il a été régulièrement notifié, le tribunal a retenu les défauts à son encontre. Et il a passé la parole aux victimes, représentées par leurs avocats. Nous avons demandé effectivement qu'on nous accorde l'intégralité de nos postulations, à savoir que nous avions droit à des dommages intérêts pour tous les préjudices qui nous a été dans la mise en place de ces dispositifs, dans les prélèvements irréguliers, alors que rien juridiquement n'est justifié que Orange facilite ce mécanisme dès lors que RAM avait été démontré comme illégal et que, regarde la Constitution, Orange n'était pas tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. La deuxième affaire opposait les victimes du RAM à Vodacom RDC, toujours pour le même objet. Cette fois-ci, Vodacom a assigné la République démocratique du Congo pour être son garant dans cette procédure. Et là, désignés en intervention forcée. Dans l'intérêt d'une bonne administration des justices, on a joint les deux affaires.
Concernant l'affaire les victimes de RAM contre Airtel, les parties ont été identifiées et conformément aux droits de la défense, l'affaire a aussi été renvoyée au 31 mai 2022, indique maître Hervé Diakiesé.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a décidé de revenir dans son adresse hebdomadaire à la Nation mardi 3 mai sur les événements du 1er mai. Alors qu'il devait s'adresser devant une petite foule de travailleurs rassemblés dans un stade de Rustenburg au nord-ouest de Johannesburg, la scène a été envahie par un groupe en colère. Le président, qui a dû quitter les lieux, affirme désormais avoir entendu cette colère généralisée au sein du pays. Ce sont des mineurs en colère et réclamant une hausse de salaire qui ont poussé le président à quitter le stade sous les huées et les sifflets dimanche 1er mai.
L'invité.
Lenny Ilondo, un des administrateurs à la Fédération des entreprises du Congo et président de la commission industrie, est notre invité dans cette édition du journal. Il explique pourquoi le malentendu persiste entre la FEC, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et la DGIDA autour du nouveau système de traçabilité des droits d'accise. Lenny Ilondo a affirmé que la FEC ne s'oppose pas au système, mais fait savoir que la vignette fiscale sur la production locale est une double imposition pour les opérateurs économiques. Lenny Ilondo s'entretient ici avec J.R. Lungembo. Suivez.
Monsieur Lenny Ilondo, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie les interventions de la FEC au niveau des médias ces derniers temps? Je voulais dire des interventions se rapportant sur le système de traçabilité des droits d'accise.
Bon, écoutez, les interventions sont justifiées par le fait que aujourd'hui nous savons qu'il y a le code des accises qui requiert le paiement des droits d'accises en faveur du trésor public. Et je peux vous dire qu'à ce jour, toutes les entreprises sont, comme on dit en anglais, compliance, mais en conformité avec les dispositions impératives de ce code des accises. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement veut atteindre comme objectif, c'est d'élargir sa capacité à collecter les droits d'accises. Mais le système que l'on veut mettre en place, pour nous, pour lequel nous, on n'a aucune objection, cependant, mais ce système va engendrer une augmentation de prix, une diminution du volume de vente et une réduction de la capacité de l'État à collecter impôts, taxes et redevances. Il y a aussi ce système de collecte mise en place par la DGDA. Sur le côté, il y a également le ministère de l'Industrie qui veut lui aussi imposer un certain droit d'estampillage. Les provinces veulent elles aussi imposer un droit d'estampillage. Et finalement, il y a quelques jours, le ministre de numérique, je crois, c'est le terme
de code-barre.
De code-barre. Mais comment voulez-vous, par exemple, sur une bouteille d'eau, avoir quatre codes ou quatre timbres? Et finalement, la marque de la bouteille d'eau n'apparaîtra plus. Comment voulez-vous, si aujourd'hui, si on a l'opportunité d'exporter cette bouteille d'eau au Congo-Brazzaville ou en Angola, on ne verra que le nombre d'estampillages sur les bouteilles, on ne verra même pas la marque, ni la composition nutritionnelle de ce produit. C'est là toute la problématique.
Alors, la DGDA a un partenaire, SIGPA. En quoi ce partenaire vous dérange?
Le partenaire ne nous dérange pas, mais ce sont les frais rémunératoires de ce partenaire qui nous dérangent, qui va contribuer à l'augmentation des prix de nos produits. Si aujourd'hui la DGDA accepte de rémunérer son prestataire, comme l'a suggéré la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, nous ne sommes partants.
À vous entendre parler, donc, la FEC s'oppose au système de traçabilité aux côtés de SIGPA. C'est pourquoi vous exigez le retrait pur et simple de l'arrêté du ministre des Finances.
Non, la FEC ne s'oppose pas aussi à ce système. La FEC ne peut pas empêcher ce système de se mettre en place. Il ne peut pas se mettre en place dans la perspective d'augmenter les prix de nos produits, de rendre nos produits moins compétitifs par rapport aux importations. Je prends un exemple. Vous savez qu'à David de Boma, il y a toute une usine, une brasserie toute neuve qui a fermé. Pourquoi? À cause des importations illégales. Donc, on peut améliorer la compétitivité de nos industries si on arrive à mieux gérer les importations. Mais on refuse d'augmenter les prix pour faire la place aux importations.
La DGDA a affirmé que finalement, ce système rapportera à la caisse de l'État 1,6 milliard. Vous étiez là peut-être au Pullman lorsque on avait lancé ce système.
Ben écoutez, c'est une déclaration de...
C'est une vérité
non,
ou des mensonges?
Non, c'est une déclaration de l'ancien directeur général. Mais je ne sais pas sur quoi il se fondait, sur quel système économique se fondait-il pour pouvoir assurer cette augmentation. Il faut regarder la densité industrielle de notre pays. Combien d'industries avions-nous? Il faut regarder l'assiette fiscale de notre pays. Combien d'assujettis avons-nous du côté personnes morales, industrielles, capables de rencontrer ce chiffre. Je voulais pas faire trop de commentaires, mais ça m'avait fait rire.
Donc vous priez que l'arrêté soit retiré.
L'arrêté, je crois que nous pensons que l'arrêté, avec la bonne foi du ministre des Finances, sera retiré. Mais nous ne disons pas que le retrait de l'arrêté ne veut pas dire que le système ne va pas être installé. Le système sera installé, mais pas à charge du consommateur.
Monsieur Lenny Ilondo, merci d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions.
Merci bien.
Lenny Ilondo, un des administrateurs à la Fédération des entreprises du Congo et président de la commission industrie, était notre invité. Il s'entretenait donc avec J.R. Lungembo. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.